que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Quels sont les risques liés à la fabrication du bois sans respect des normes? Monsieur Nicolas Chukonemba, expert en environnement, est là. Rebonjour.
Rebonjour, monsieur.
Alors, merci d'être là pour répondre aux préoccupations de nos auditeurs. À Kinshasa et dans les autres provinces de la RDC, le charbon de bois est couramment utilisé pour la cuisson, mais la fabrication de la braise sans respect des normes a des conséquences sur l'environnement. D'après les spécialistes, quels sont les risques liés à la fabrication de la braise sans respect respecte des normes et quelles précautions prendre pour fabriquer de la braise sans que cela puisse avoir de risque. Nicolas Choukoula, première question. Les gens fabriquent de la braise pour vivre. Certains fabriquent même de la braise pour la vente. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre lorsqu'on fabrique de la braise?
Comme vous l'aurez à les remarquer, quand on fait la carbonisation pour obtenir le charbon de bois, que vous appelez communément la braise, mais il est important de parler de charbon de bois, parce que c'est le combustible ici de la carbonisation de l'arbre.
Et le fait de brûler du bois, c'est ce qu'on appelle la carbonisation.
C'est ce qu'on appelle la carbonisation.
Tout à fait, allez-y.
Okay. Quand on a carbonisé le bois dans le four, et après défournement, vous avez ce qu'on a, le produit qu'on appelle le charbon de bois. Mais dans la fabrication de charbon de bois, il y a certaines techniques qui sont en fait difficiles et qui permettent à engendrer plusieurs maladies. Et parce que quand un charbonnier est dans la fabrication des combustibles lignés, en partant du choix des espèces jusqu'au défournement, il passe aux étapes. Mais il y a plusieurs maladies qu'on engendre, qu'on retrouve, parce que la fumée de la carbonisation dérange les yeux. Et que parmi les personnes qui carbonisent...
Donc, en dehors des conséquences sur l'environnement, il y a également des conséquences sur la santé.
Il y a la conséquence humaine, et la conséquence sur la santé, il y a la conséquence... Ici, nous voulons parler d'abord la conséquence liée à la santé de l'homme, parce que l'homme est un élément principal des écosystèmes. En fait, quand il est en train de carboniser et que la fumée et la cendre qui s'élèvent pendant qu'on est en train de faire le défournement, ça vient tout à coup vers les yeux et que ça perturbe même la visibilité des charbonniers et ça engendre la diminution de la réduction de la visibilité et à la longue, les personnes qui font la carbonisation voient difficilement. Et en outre de ça, que vous allez remarquer, la plupart des gens qui font la carbonisation, ils souffrent des hémorroïdes aiguës et ces hémorroïdes est dû du fait de coupes de bois, de les tronçonner, de les transporter, des transports difficiles et avec peut-être en travaillant sans manger et ça engendre des hémorroïdes. Et comme vous l'aurez allé remarquer, la fumée elle-même produit la maladie et les maladies respiratoires et ils toussent beaucoup. Ce sont des gens qui n'ont pas une bonne santé. Vous le remarquez, c'est ça. Il a une perturbation physiologique. Ils n'ont pas une longue normale de 8 heures de sommeil. Donc, du fait que chaque fois, ils font la carbonisation, ils travaillent dur, ils rentrent fatigués, ils n'ont pas le temps de se reposer. Et demain matin, ils vont encore rentrer. Et que les gens, vous aurez remarqué, là, même les jeunes qui font la carbonisation, le fait de travailler, ils vieillissent vite. Et c'est le vieillissement.
Il y a moyen de prévenir tout cela parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ne vivent que de ça. On voit dans des villages, mais pas très loin de Kinshasa, quand on va du côté de plateaux de Batiki, il y a des gens qui ne vivent que de ça. Et comment ils peuvent faire pour prévenir parce que là, vous avez parlé de la fumée. Qu'est-ce qu'ils doivent bien faire?
Ok, il y a toujours moyen de prévenir. Quand on carbonise le charbon de bois, oui. Pour éviter contre la fumée, il faut porter des lunettes. Il y a des lunettes fumées, on peut le porter, ça vous protège contre la maladie des yeux. Si vous, vous commencez à couper le bois, quand vous regardez les mains des charbonniers, et qu'est-ce que vous allez remarquer, les mains sont abîmées. Ils peuvent porter des gants pour protéger, pour se protéger contre les mains. En allant dans la forêt, ils vont à pieds nus et ils se font blesser et ils peuvent porter des bottes. Mais ça, c'est vraiment que c'est dur, c'est difficile parce que ces histoires que nous disons ici, c'est de l'argent. Mais ce sont des gens pauvres, ce sont des gens qui cherchent le moyen pour vivre. Mais en fait, moi je pense, comme ces gens sont en train de carboniser et ils vendent, il y a le taxe de capital forestier. Moi, je pense que le gouvernement peut trouver le moyen pour arriver à doter ces personnes de moyens pour arriver à carboniser le charbon de bois. Ou bien, ils peuvent s'organiser en association et de l'association, ils peuvent commencer à s'acheter pour se protéger. Et ce sont des gens dont leur durée de vie est courte. L'espérance de vie de ces charbonniers diminue. Ils travaillent durement, ils n'ont pas le temps de se reposer et de se réjouir, en fait. Ils ne font que les conséquences négatives par rapport à leur santé. Du point de vue positif, ils ont de l'argent. Et cet argent, qu'est-ce qu'ils font avec?
Est-ce que pour ceux qui ont des moyens, il y a des techniques modernes auxquelles on peut recourir pour atténuer un peu le risque de ce travail par rapport à la santé?
Comme vous aurez à les remarquer, 80% ou plus de toute la population charbonnière de la République démocratique du Congo utilise la melle traditionnelle, qui est en fait une technique ancienne de carbonisation de charbon de bois. Quand vous allez dans un pays qui est dans la même latitude que la République démocratique du Congo au Brésil, on est déjà en train de faire les fours brésiliens, où il y a des fours modernes de carbonisation, il y a le four à Bocante, qui en avait déjà à la République démocratique du Congo, avec le centre d'adaptation des techniques de l'énergie bois, le CATEB. Ça existait à l'évêché au Bas-Congo, ça existait à Kikwit, et ça existait dans d'autres pays. Mais aujourd'hui, puisque les opérateurs qui nous ont amenés, les Canadiens sont partis et les Congolais n'ont pas pu aller loin avec cette technique. Et en fait, c'était une façon de faire des fours modernes et on coupait les bois. Les véhicules transportaient ces bois et on revenait carboniser et on pouvait faire le défournement et on obtenait les bois de chauffage, le charbon de bois de bonne qualité et puis un rendement élevé. On pouvait continuer dans ce sens.
Alors là, vous avez parlé d'abord de risques liés à la santé, la carbonisation du bois qui provoque de la fumée qui peut être dangereuse pour les yeux. Et par rapport aux normes même pour la coupe des arbres, est-ce qu'il y a des normes à respecter par rapport à la coupe même des arbres?
Là, il ne manque pas de normes à respecter pour la coupe de l'arbre lui-même. L'arbre, comme est une ressource renouvelable, je l'évoquais l'autre fois, quand vous coupez un arbre à ras du sol, c'est que vous êtes tenter de ce qu'on appelle coupe à blanc, vous coupez la régénération de l'arbre. Il est important de couper l'arbre à un mètre du sol ou à 1,20 m du sol pour permettre à l'arbre d'abord lui-même de repousser et que pour qu'on ne puisse être dans le risque, dans les pertes de l'espèce. Et quand on a coupé l'arbre, il faut les tronçonner. Et on les tronçonne à 1,50 m, à 2 m. Et donc, déjà, du point de vue de la coupe, il y a la norme. La norme doit être respectée. Pourtant, aujourd'hui, les personnes qui carbonisent ne respectent même pas la coupe. La coupe, c'est encore bien. Ils ne respectent même pas les choix des arbres à carboniser. Parce qu'aujourd'hui...
Ah là, c'est vraiment important, hein, le choix également des arbres. Il y a des espèces... qui ne conviennent pas du tout.
Ouais, il n'est pas bon de couper n'importe quel arbre, parce que quand vous arrivez à Kisantu aujourd'hui, ou bien vous partez dans le Bas-Congo, vous allez dans les
Amadimba, Kasangulo,
par exemple, et qu'est-ce qu'ils carbonisent aujourd'hui? Ce sont les arbres fruitiers. Ils coupent les safoutiers, ils coupent les manguiers, ils coupent les citronniers. En fait, ce sont des arbres qu'on ne peut pas couper, parce que ce sont des arbres qui sont importants pour donner une certaine vitamine à la personne, à l'homme. Mais il y a le choix de l'arbre. Aujourd'hui, le charbonnier, par rapport à l'argent, ils ne font pas le choix judiciaire de l'espèce.
Quels sont les risques liés à la fabrication, si vous voulez, à la carbonisation du charbon, du bois, sans respect des normes? On en parle avec Nicolas Choukou Onemba. Il est expert en environnement. Vous êtes intéressé par le sujet. Vous habitez Madimba, Kasangoul. Vous êtes à l'est du pays. Vous vivez du bois. Vous êtes intéressé par le sujet. N'attendez pas. Appelez-nous déjà au 081-890-6394 ou faites-nous parvenir un SMS au 081-711-5001.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Alors, Nicolas Choukounéba, vous parlez des espèces auxquelles il n'est pas recommandé de faire la coupe des arbres. C'est quel genre d'espèces d'arbres ou c'est qui ne conviennent pas vraiment à la coupe des arbres? Vous parlez déjà de certains arbres fautiers, par exemple.
Oui, il y a certains arbres qu'on ne peut pas choisir pour carboniser. En fait, quand on carbonise, il est vrai qu'on obtient le charbon de bois. Mais ces arbres-là sont importants, ces espèces sont importantes aussi pour la vie de l'homme. La plupart des Congolais ne consomment pas dans leur repas le fruit. Pourtant, le fruit, c'est parmi les repas équilibrés. Ces fruits-là, au lieu de les consommer, vous commencez à couper ces arbres. Et il y a certaines espèces qu'il ne faut pas aussi couper, qui peuvent être utiles pour solidifier les sols.
Mais pour un arbre fruitier qui ne produit plus de bons fruits, qui vieillit, est-ce qu'on peut se permettre de couper cet arbre pour faire du charbon?
Bon, si vous pensez que vraiment l'arbre a vieilli et que ça ne produit plus un bon rendement, on peut le couper pour faire autre chose, où on peut carboniser. Mais généralement, ce que nous avons trouvé dans nos enquêtes, que même les arbres qui produisent à un grand rendement, et ils sont en train d'être coupés pour être carbonisés. Mais c'est ce qui est malheureux aujourd'hui.
Là, c'est pas bon. Et vous avez mené des enquêtes par rapport à ça. Est-ce que vous avez posé la question à ces paysans pour savoir pourquoi on coupe cet arbre fruitier, par exemple?
Mais les paysans ou les charbonniers, ils coupent les arbres pour deux raisons. D'abord, aujourd'hui, comme vous aurez remarqué, les espèces végétales qui décarbonisation s'éloignent de la ville. On est à 180 km pour aller trouver les espèces, on est à plus de 200 km pour aller trouver les espèces. Qu'est-ce qu'il fait? Il est enfamé. Il préfère couper l'arbre, le carboniser. Dans 15 jours, il a l'argent pour nourrir la famille, il a l'argent pour payer les minervales, il a l'argent. Et on trouve même certaines personnes qui abandonnent le travail de l'État pour aller carboniser, même certains intellectuels, parce qu'ils sont sous-payés, mais ils préfèrent aller vendre ou carboniser. En fait, il a l'argent.
On a deux auditeurs en ligne, on va les accueillir. Abel Bainol, il nous appelle de Kinshasa. Ismaël Mupoy est à Lubumbashi, dans la province du Katanga. Abel, bonjour.
Et bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Abel.
Ouais, j'ai une question à deux volets que je peux poser à notre invité.
Allez-y.
Oui, ma question se trouve comme celle-ci. Je veux savoir l'impact de la coupe des arbres par rapport à l'écosystème, parce qu'on voit qu'il y a aussi des arbres potentiels qui nous aident à notre écosystème. Quand on parle de l'écosystème, on voit un peu l'environnement de l'homme, quoi. Sur les abeilles, est-ce que la coupe des arbres, est-ce qu'il y a des arbres spécifiques qu'on ne peut pas couper pour la fabrication des braises ou comment? Et le deuxième volet de ma question est celui-ci, les désavantages de cette politique-là, de la coupe des arbres par rapport à l'environnement humain. C'est ça ma question.
Merci Abel. Ismaël Mopoy, vous êtes à Lubumbashi dans la province du Katanga. Bonjour Ismaël.
Bonjour Marcel, directeur de la radio.
On vous écoute Ismaël.
Oui, j'avais une préoccupation concernant la carbonisation. C'est juste que, parce que le courant est très difficile, mais on peut avoir même du four, ainsi de suite. Mais la manière dont on peut...
Là, on n'a pas compris vers la fin. Vous avez dit le courant, souvent il y a coupeur, et puis vous avez dit, c'était quoi exactement votre question?
Oui, c'est difficile. Maintenant, pour la carbonisation, c'est parce que et le moyen est très difficile. J'avais voulu seulement poser une petite question à notre invité, comme je disais, à l'environnement.
Oui.
Qu'est-ce qu'ils font juste pour ceux qui carbonisent? Parce que les contrôles semblent être parfois difficiles, parce que ceux qui les font, c'est au village pour maintenant aider ceux qui se trouvent en ville. et quelle sorte même d'arbres dont on peut fixer la mesure pour laquelle on peut utiliser. Je demanderai maintenant à ceux qui carbonisent et qui n'ont pas réuni les conditions, quelles peuvent être reçues les constantes.
Merci Ismaël. Nicolas Chou.
En fait, M. Abel à Kinshasa, il pose la même question. Il parle des impacts des coupes sur les écosystèmes, les désavantages. En fait, impact, c'est les conséquences lui-même sur les écosystèmes. Et quand on coupe une espèce dans une forêt, on déséquilibre en fait l'écosystème. Ça veut dire quand vous coupez, vous commencez à perturber la niche écologique de l'écosystème. Et que maintenant, là, il s'est fait que on est en train de faire un certain abattage. On fait l'abattage des arbres et ça perturbe. Il y a la perturbation pas seulement sur les abeilles. La perturbation se réalise sur les espèces végétales, sur les espèces animales. Du fait de vie végétale et animale, comme les abeilles, il y a la disparition de ces abeilles. Il y a les plantes qui nous donnaient des champignons, ça disparaît. Il y a diminution des champignons, il y a certaines plantes qui donnent qu'on utilisait ou on utilise pour les produits pharmaceutiques. Aujourd'hui, on est en train de les perdre. Donc, il faut une certaine conscience environnementale. Il faut arriver quand on veut couper, à choisir quelle est l'espèce qu'il faut couper, et quand on le coupe, il faut avoir les soucis de l'avenir par rapport à l'arbre qu'on est en train de couper. Parfait, aujourd'hui, les abeilles sont en train de disparaître ou de s'éloigner parce que la reine de l'abeille vient se poser pour que les autres abeilles viennent pour avoir les produits aujourd'hui importants. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous remarquez? Dès qu'on coupe les espèces, les abeilles vont trop loin. Il n'y a pas que les abeilles. Je disais, il y a d'autres espèces qui disparaissent, même les espèces végétales. Par rapport à notre collègue Ismaël, qui se retrouve à Lubumbashi, oui. Lui parle de la carbonisation, il fait la liaison entre la carbonisation et l'électrification. Ce sont des choses différentes. En principe, si aujourd'hui la population ou les villageois, il est aberrant de croire que c'est seulement les villageois qui carbonisent, parce qu'aujourd'hui nous trouvons les gens de la ville qui quittent la ville pour aller carboniser dans la forêt, qui vont dans les villages. Et en principe, je disais, il est important qu'il y ait la politique d'électrification rurale. En principe, qu'il doit y avoir une bonne politique de répartition spatiale de l'électricité à travers le pays. C'est ça qu'il n'y en a pas. Il n'y a même pas le plan directeur de l'électrification dans notre pays. Il n'y a même pas un plan réel réalisé pour aller électrifier les pays. Donc ça signifie quoi? Nous sommes en train de vivre dans notre pays sur l'urgence d'électrification. Inga, nous pensons que Inga seule ne peut pas être capable d'électrifier les pays. Même si Inga a une grande potentiel d'électrification, le pays lui-même, la ville de Kinshasa, 6% taux d'électrification, cela veut dire même les gens de la ville de Kinshasa sont dans le noir. Et en outre, d'où il faut cuisiner. Pour cuisiner, il faut utiliser le charbon de bois. C'est que les gens vont carboniser.
C'est justement cela également la préoccupation d'Ismaël Mopoy qui demande, puisqu'il y a les problèmes d'électrification et que les gens doivent recourir à la carbonisation du charbon de bois pour survivre. Est-ce qu'à votre niveau, en tant qu'expert, est-ce qu'il y a lieu de voir comment davantage sensibiliser les populations par rapport aux espèces qu'il ne faut pas abattre pour faire de la braise?
Il est important de réunir ces charbonniers, de les sensibiliser sur les techniques de carbonisation, sur le choix d'espèces, sur le comment faut-il carboniser, quand est-ce qu'il faut défourner, quelle est la période de la carbonisation, à quel moment il faut vraiment carboniser pour avoir un très beau rendement. Il faut de séminaires, de formations, de conscientisation, de sensibilisation. Mais même si on fait ces séminaires, la population est pauvre et ça se pauvrise encore. Pauvrice encore, il est important de recourir, pour ne pas avoir la pression sur la forêt, de recourir à d'autres formes d'énergie qu'on appelle les énergies nouvelles et renouvelables. C'est très important, sinon, même si on conscientise quelqu'un, mais si on lui donne pas une méthode de remplacement, il va revenir à carboniser, il va revenir à cuisiner avec le charbon de bois. C'est le pays qui doit chercher les méthodes. Si le pays ne cherche pas, les experts, l'homme, la personne lui-même doit aller vers les autres formes d'énergie, qui est un peu qu'on appelle les énergies alternatives.
Voilà, 081-890-63-94, c'est le numéro d'appel, les 081-711-50-01, c'est le numéro pour nous envoyer un SMS si vous voulez participer à ce sujet. Quels sont les risques liés à la carbonisation du charbon pour vivre? Vous êtes dans un coin, vous êtes en Mampou, vous êtes dans un endroit où vous utilisez, vous abattez du bois pour le brûler, pour avoir du charbon. Bon, quels sont les risques? Nous en parlons avec Nicolas Choukou. Vous êtes intéressé? N'attendez pas, intervenez déjà. L'invitez là pour répondre à vos préoccupations.
C'est parce que Radio Capé unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Olivier Kaindo nous appelle de Kikwit dans la province du Bandundu. Olivier, bonjour.
Oui, bonjour monsieur. Oui, je salue notre invité. Bon, il a déjà répondu pratiquement à certaines de mes préoccupations, bon, les risques, il les a énumérés, mais je voulais savoir seulement si, par rapport à la politique environnementale du gouvernement, s'ils ont des liens pour aider le gouvernement à faire quelque chose, parce qu'il venait tout à l'heure là de déplorer le fait qu'on ne donne pas suffisamment de moyens à la population et tout ça. Mais est-ce que lui, en tant qu'expert, est en relation avec le gouvernement en termes de conseils, par exemple? Voilà, c'était un peu ça, parce que le problème est très sérieux, en fait, dans cette République. Moi, je suis à Kitit, je fais des fois des tours du Bandundu, mais partout, il n'y a que ça. On ne fait que couper le bois, et nous mettons de côté la carbonisation. Il y a la coupe aussi pour la vente, les grumes, mais les risques sont énormes, c'est connu. Il y a eu la conférence, des conférences un peu partout dans le monde, mais nous sommes, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, nous ne suivons pas la politique internationale en matière d'environnement. Est-ce que lui, en tant que spécialiste, il a un conseil à donner au gouvernement, ou bien il est dans le gouvernement ou dans les commissions du gouvernement en cette matière-là?
Voilà, merci Olivier Caïd de vous appeler depuis Kikwi dans le Bandundu. L'invité va vous répondre. Quels sont les rapports que vous avez, vous, experts, les ministères de l'environnement?
Mais, en tant qu'expert, ça fait longtemps, nous avons mis sur pied dans ces pays et l'Association nationale pour l'évaluation environnementale. Cette association, c'est un organe technique du ministère.
Vous avez mis depuis quelle année?
Depuis 1982.
1982.
Oui, existe une Association nationale pour l'évaluation environnementale. Et déjà en 1984, nous avons fait un séminaire, un colloque international qui réunissait tous les membres du gouvernement, les experts de tous les ministères, et où on demandait la mise sur pied ou de la loi cadre. Mais aujourd'hui, par rapport au sujet qu'il est en train de demander, les ministères de l'environnement connaissent les normes environnementales de carbonisation, connaissent les normes environnementales de coupe. Mais il y a un problème avec certains experts du ministère ou bien certains agents des ministères. Ils ne veulent pas appliquer ces normes-là. Pourquoi? C'est parce que ils veulent seulement surtaxer la population, ils veulent seulement demander 2, 3, 4 fois les taxes. Mais sinon, les normes existent. Puis nous sommes au Congo, pendant que nous parlons, c'est une conscientisation, c'est une sensibilisation. Ils peuvent nous contacter, ils ont nos numéros de téléphone. pour qu'on donne les orientations par rapport au gouvernement.
En 1982, depuis que cette association a été mise en place, si mes calculs sont bons, ça fait 30 ans. Et donc vous n'êtes pas très... l'association n'est pas aussi efficace que ça.
Oui, mais l'association était tout à fait efficace. Je vous dis que l'association a déjà formé certains cadres qui sont au ministère de l'Environnement. L'association a déjà envoyé les gens se former. Nous avons déjà mis beaucoup d'experts sur terrain. Mais c'est une association, c'est pas un service gouvernemental qui doit faire des plans, des stratégies. Nous sommes là pour sonner la sonnette d'alarme. Nous sommes là pour orienter les gens. Et c'est déjà même cette association qui m'avait envoyé faire mon doctorat.
Mais votre association ne fait pas trop de bruit autour de ces problèmes de décarbonisation du bois, ça fait pas trop de bruit autour de ça, autrement peut-être
faire de bruit c'est peut-être trop dire. Déjà quand je parle au colloque au congrès forestier mondial qui a eu au Québec, nous avons parlé de ça
et vous étiez là avec des experts du ministère de l'Environnement.
Avec le secrétaire général de l'Environnement était là, 4 directeurs du ministère de l'Environnement, ils étaient là et nous avons parlé au congrès forestier mondial et nous de ce système de la foresterie et de ce système de l'énergie bois. Et nous avons déjà en 2008, nous avons parlé avec les membres du gouvernement, il y avait les conseillers de la primature et nous avons le séminaire sur les enjeux environnementaux de l'énergie bois en République démocratique du Congo. Il y a eu même les invités qui sont arrivés de d'autres pays. Donc on sensibilise jusqu'à un niveau, à la présidente, on a envoyé des lettres. Nous les informons, nous les disons, mais eux qui doivent mettre en application ces procédés, ces normes, ils savent.
Voilà, Jean-Pi Moukala est à Kalemi dans la province du Katanga. Jean-Pi, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Jean-Pi.
Oui, ma première question, on peut couper l'arbre après combien d'années? Et la deuxième question, quels sont les arbres préférés pour fabriquer le charbon? Et la troisième, l'application des Makala ne peut pas s'arrêter parce que l'électricité nous fait chaque jour les défauts. On ne peut pas ni repasser ni préparer. Comment est-ce que l'information des Makala peut s'arrêter?
Merci Jean-Pi. Kassereka est à Isiro, dans la province orientale. Kassereka, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Ici, c'est Kassereka Mandolane, il défausse.
On vous écoute, Kassereka. Dommage, Kassereka, là, et on l'a perdu. La réalisation me fait signe qu'il est encore en ligne. On pourra le retrouver tout à l'heure. Le temps pour notre invité de. On me fait signe qu'il y a Gaylor qui appelle depuis Kinshasa, qui est déjà en ligne. Gaylor, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Gaylor.
Oui, ma question à monsieur Nicolas. Quelles sont les méthodes prévues par rapport aux échappements de combustion, le projet qu'ils amènent, par rapport au climat? Quelles sont les conséquences qui peuvent être néfastes? Quelles sont les méthodes qu'ils ont prévues pour pallier à tout ça?
Merci Gaylor, vous appelez depuis Kinshasa. On va commencer avec cette question de Jean-Pi. C'est à combien, il a parlé de la coupe des arbres, ça peut se faire après combien d'années? Et puis quelles sont les espèces pour lesquelles on peut couper sans problème? Et puis les revenus sur la fameuse question sur des conséquences.
Ok, à combien d'années il faut couper l'arbre? Il faut savoir que la RDC se trouve dans plusieurs strates climatiques. Nous sommes dans il y a la zone équatoriale, il y a la zone tropicale et il y a sur des à l'est il y a la zone montagneuse avec le climat des montagnes. Et il est vrai que la durée de la longueur d'année par rapport à coupe de bois dans le climat équatorial n'est pas la même que dans le climat tropical et dans le climat des montagnes. Mais la moyenne pour qu'un arbre soit coupé, il varie entre 5 à 10 ans.
Okay. 5 à 10 ans.
C'est une moyenne normale pour que l'arbre puisse croître et fournir un bon rendement. Et par rapport à ça, c'est la zone équatoriale comme la zone tropicale. Mais dans la zone d'altitude, où à l'est du pays, une zone aujourd'hui où il y a la perturbation liée au conflit armé. Et c'est un endroit aussi où la pression du charbon qu'il y a aussi de la population par rapport au charbon de bois. La durée aussi varie entre 4 à 10 ans pour qu'un arbre puisse être coupé. Mais quelle espèce faut-il choisir? Il faut choisir une bonne espèce quand on carbonise et que la maman puisse cuisiner, ça ne puisse pas donner beaucoup de cendres. Parce qu'il y a beaucoup de, il y a les arbres comme le Moussanga Semiti, quand vous le carbonisez et que vous avez le bois et que quand on le prépare, c'est déjà beaucoup de cendres et ça n'arrive pas à bien cuisiner les repas. Alors, il faut faire un très bon choix d'espèces. Il faut pas aller vers les arbres fruitiers. Il faut pas aller couper les arbres le long des littorales ou le long d'un cours d'eau parce que vous avez le risque de créer les éboulements ou les inondations. Par rapport à Guélor, quand il dit quelle est la méthode que nous amenons, nous on n'a pas amené une méthode. La méthode de carbonisation existe. On a parlé de la fabrication des braises. J'ai dit, en bon français, on parle de la carbonisation de charbon de bois. C'est une méthode qui existe depuis longtemps et que c'est une méthode traditionnelle qu'on utilise au Congo. On utilise la melle. La melle qui a en fait une carbonisation avec des montes de terre. Mais quand il dit comment faut-il savoir qu'il faut bien carboniser, dès que vous avez mis votre monte de terre et que vous voyez que la fumée commence à se blanchir et devenir un peu bleue, blanche, il commence à blanchir un peu, c'est le moment qu'il faut faire le défournement. Par rapport au changement climatique, chaque fois que qu'on coupe le bois, comme vous voulez le savoir, le CO2 envoyé à l'atmosphère, la fumée envoyée à l'atmosphère, il est vrai que ça perturbe les changements climatiques et les écosystèmes.
On va accueillir un dernier auditeur qui est en ligne, il s'agit de Kasserika qui est ici dans la province orientale. On retrouve Kasserika. Kasserika, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour la radio Capi, bonjour à tous les auditeurs et à notre invité.
On vous écoute, Kasserika.
Ah oui, l'invité était très pertinent dans ses interventions. Il a déploré les conditions de vie dans lesquelles les personnes qui charbonisent vivent. Mais bon, voici ma question. Je voudrais, quelles sont les mesures d'encadrement de ces compatriotes qui sont ignorants de leur sort par l'exploitation des arbres sans respect des normes de l'environnement? Parce qu'après, tous ces gens, ils payent des taxes. Ils payent des taxes dans les trésors publics.
Merci, Kasserika. Nicolas Chouk.
Ok, bonjour. Merci, monsieur. Je vais parler d'abord des taxes. Pour que l'argent puisse entrer dans les trésors publics, il faut que quand vous payez, on vous donne un reçu, une facture. Je me demande si tous les charbonniers dans la forêt, ils donnent l'argent sans, on leur donne des factures. Ça, c'est quelque chose. Il faut en parler un jour des taxes de l'État qui, si ça entre réellement dans les trésors publics ou ça entre dans les poches de certaines personnes, ce qui est en fait malheureux pour ces personnes qui sont en train de rançonner d'une façon intelligente indûment l'argent d'un pauvre citoyen. Mais par rapport à la question les mesures d'encadrement pour encadrer ces gens qui ne savent rien, en réalité ils savent. La première chose, il faut les mettre en association, il faut les regrouper, et deux, là où ils sont, après les avoir regroupés, il faut commencer à les sensibiliser par rapport aux impacts positifs, aux impacts négatifs. Et après les avoir sensibilisés, on peut même les aider à les mettre en coopérative, parce que de cet argent qu'ils vont le faire en coopérative, ça peut commencer à les aider. On peut même mettre certains dispensaires pour polycliniques pour eux. Parce que ces gens-là, ils souffrent et il y a ceux qui meurent. On n'en parle pas. Dans d'autres pays, une petite maladie, on doit savoir la source et on doit donner la solution. Chez nous, l'homme est considéré comme un animal. Il est important de savoir tout ça.
Merci beaucoup, Nicolas Chouku Onemba. Vous êtes expert en environnement. Vous étiez notre invité pour commenter, répondre surtout aux questions et préoccupations de nos auditeurs sur le sujet. Quels sont les risques liés à la fabrication, si vous voulez, à la carbonisation du charbon du bois sans respect des normes? Merci. À la prochaine occasion.
Ok. Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent me contacter, c'est mon numéro, c'est le 082 027 26 47. 082 027 26 47, c'est Nicolas
Chouponem. Vous avez quand même l'adresse en mail?
Mon adresse en mail, c'est Nicolas Chouku @ gmail.com.
D'accord, je rappelle pour ceux qui sont intéressés, qui aimeraient entrer en contact avec vous, le numéro c'est les 082-027-2647, c'est bien cela.
Oui.
Et puis votre adresse mail c'est nicolaschouko@gmail.com.
Parfait.
Merci.
Merci à vous, monsieur. Au capé.